Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues professeurs, chers étudiants, j'ai plusieurs de mes étudiants dans la salle, chers amis, le jury du prix du livre de l'Association française de sciences économiques, pour la première fois est décerné dans cette belle salle. Je voudrais remercier Claude Barthelone de nous accueillir sous son haut patronage, puisque c'est la formule consacrée, pour remettre ce prix aujourd'hui dans ses locaux. Le prix, cette année, a été attribué à 3 ouvrages. Thomas Piketty pour Le Capital au XXIe siècle. Une mention spéciale a été décernée à Jacques Mistral pour son beau livre « Guerre et paix entre les monnaies ». Et un hommage a été rendu à Alain Desrosières, disparu il y a 2 ans, pour « Prouver et gouverner une analyse politique des statistiques publiques ». Le jury a respecté au-delà des critères de la parité, puisque nous étions 4 hommes, 4 femmes et une présidente, Françoise Benamou, Jérôme Gauthier, Pascal Lemerrer, Valérie Mignon, Jean-Eudes Moncomble, Helmut Mood, Kathleen Schubert, Karine van der Straten et moi-même. Alors, je voudrais d'abord dire que ce jury a été décerné à Thomas avant le formidable écho médiatique qu'il a rencontré depuis. Il lui a été décerné puisque c'est un prix qui s'adresse aux étudiants pour sa force analytique, pour son originalité méthodologique, par un jury essentiellement composé d'universitaires qui lui a uniquement reconnu une puissance intellectuelle et pas seulement politique, si j'ose dire, sur laquelle je voudrais revenir. On connaît tous la thèse paradoxale qui sert de point de départ à l'ouvrage. Contrairement à ce qu'avait affirmé la théorie économique dans la deuxième moitié du XXe siècle, les inégalités ne diminuent pas avec la croissance, mais elles augmentent et elles pèsent, c'est le sujet de la première table ronde, elles pèsent même sur le retour de la croissance. La démonstration est construite autour de 3 grandes lignes forces qui chacune inverse les tendances, c'est ça qui a été important pour nous, de la théorie économique traditionnelle. Premièrement, le capital au XXIe siècle bouleverse l'ordre logique communément accepté entre les structures productives et la répartition des ressources. Pour revenir à une tradition qui s'est fait jour à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, non pas tant celle de Smith, mais celle de Malthus, de Ricardo ou de Marx. Deuxièmement, le livre s'appuie sur une démarche intellectuelle bottom-up et non plus top-down. Une démarche historique, empirique, contextualiste, que Thomas avait déjà mise en œuvre dans son premier ouvrage et qui renoue avec une autre tradition théorique qui, elle, se met en place à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, portée aux États-Unis par le courant institutionnaliste ou en France par des historiens économistes comme François Simian ou Ernest Labrousse. Enfin, Thomas Piketty ouvre le champ de cette analyse économique si peu sûre d'elle-même depuis ses longues années de crise. Il l'ouvre aux croyances, il l'ouvre aux représentations collectives, aux institutions, au statut de l'argent qu'il analyse comme un fait social global. Je reprends là des termes chers aux anthropologues. Et c'était effectivement des objets dont les sociologues et les anthropologues s'étaient emparés, mais dont les économistes commencent seulement à faire la théorie. Ces 3 lignes de force, Thomas Piketty les fait converger autour d'un plaidoyer pour le politique, pour la réglementation de la vie dans la cité, la police, qui ne se réduit selon lui ni au jeu abstrait des modèles mathématiques, qu'il s'est parfaitement mobilisé par ailleurs dans ce livre, ni à un quelconque déterminisme scientifique ou géopolitique, mais qui implique de prendre en compte les choix collectifs, les représentations, ce qu'il appelle les compromis institutionnels qui accompagnent les métamorphoses de ce capital défini comme polymorphe, multidimensionnel et donc structurellement en mouvement. Et c'est cette même attention portée aux politiques et à la politique qui structure l'ouvrage de Jacques Mistral, notre deuxième prix, « Guerre et paix entre les monnaies », qui nous projette inauguralement dans l'avenir, dans un premier chapitre absolument délicieux, pour analyser à une échelle géopolitique cette économie mondialisée dont les soubresauts monétaires et financiers ne font selon lui que commencer. Enfin, je vous le disais, le jury a tenu à rendre hommage à l'exploration de nouvelles pistes de recherche. Encore une fois, c'est un prix qui s'adresse aux étudiants. Et là, il s'agit de recherches sur l'évolution de la discipline à travers ses instruments, à travers ces modèles à travers les statistiques, à travers l'économétrie, à travers les politiques d'évaluation, les méthodes d'évaluation des politiques publiques et leur évolution historique. Et c'est pour cela que nous avons tenu à rendre hommage à Alain Desrosières, mort il y a 2 ans, pour son ouvrage. J'appelle maintenant Claude Barthelone et Alain Tranois pour remettre les prix à Thomas Piketty et Jacques Mistral.
Juste un mot pour dire qu'il est d'usage que l'Association française de sciences économiques offre des livres aux anciens et que Thomas Piketty, dans son livre, nous a invités à relire Jane Austen et Honoré de Balzac, donc des œuvres du 19e siècle, et que là, ce sont des œuvres du 18e siècle que nous avons choisies. D'une part, L'homme aux 40 écus de Voltaire. Et il propose qu'elle soit le président de l'Assemblée nationale qui remette. C'est une édition rare, une édition
originale. C'était beaucoup le cul.
Oui, mais Voltaire, ça vient à
Voltaire. Oui, Voltaire. Et puis, pour Jacques Mistral, nous avons choisi des œuvres d'un grand économiste français, Turgot, dont Joseph Schumpeter disait que si ses contemporains avaient vraiment compris son œuvre, eh bien. La science économique aurait fait un bond d'un siècle. Donc je suppose que c'est encore très intéressant pour un économiste à vision large comme elle l'est. Donc voilà une édition originale de toutes les œuvres de Turgot. Je crois qu'on va maintenant inviter Thomas et Jacques à dire quelques mots sur leurs livres respectifs avant de passer au tableau rond. Donc, oui, Thomas.
Oui, je vais être très bref et je veux vraiment remercier très, très chaleureusement l'Association française de sciences économiques et puis l'Assemblée nationale et son président pour ce prix qui me fait très plaisir. Bon, c'est vrai, moi, la notion de science économique qui figure dans le titre de cette sympathique association me pose un peu problème dans le sens où je pense qu'il n'y a pas vraiment de sciences économiques. Je vois plutôt des sciences sociales dont l'économie peut difficilement être séparée de la sociologie, de l'histoire. Moi, je me vois plus comme un chercheur en sciences sociales et je pense que ce livre, c'est autant un livre d'histoire que d'économie. Et si vraiment il fallait choisir une discipline, c'est peut-être un peu plus un livre d'histoire qu'une économie. Et donc j'ai beaucoup apprécié, Annie, ce que tu as dit sur mon livre et sur le fait qu'effectivement, il y avait une filiation avec des problématiques qui étaient posées par des économistes au XIXe siècle, mais aussi avec des historiens, des sociologues, notamment de langue française, François Simian, Ernest Labrousse, qui avaient toute une tradition française d'histoire économique et sociale sur les prix, les salaires, les revenus, les patrimoines, que j'aimerais contribuer à prolonger. Je pense qu'on ne peut pas couper les questions économiques des questions d'histoire culturelle, politique. Il faut étudier les représentations des inégalités en même temps que l'histoire des inégalités elles-mêmes, des prix, des salaires, des revenus, des patrimoines. C'est beaucoup plus facile à faire aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelques générations où l'histoire dite sérielle est morte en partie, je pense, parce que les technologies, disons, de l'informatique de l'époque faisaient que les chercheurs s'épuisaient dans la collecte de données et avaient tellement souffert eux-mêmes que parfois on avait l'impression qu'ils avaient envie de faire souffrir leurs lecteurs avec eux au moment de leur confier leurs résultats. Et les livres, parfois, s'apparençaient à des grandes annexes statistiques et on oubliait finalement de faire de l'histoire, alors qu'aujourd'hui, on peut tout mettre en ligne. Et donc, moi, mon livre, c'est d'abord le résultat d'un grand programme collectif international de collecte de données qui n'aurait pas pu avoir lieu sans Tony Atkinson, Emmanuel Saez, Facundo Alvaredo, Gabriel Zucman, des dizaines de chercheurs. Tous les matériaux techniques sont en ligne. Et ensuite, on peut se concentrer dans un livre comme celui-là sur raconter l'histoire, non seulement économique, mais aussi politique, sociale, culturelle, qu'il y a derrière ces évolutions. Et donc, je pense que c'est plus facile aujourd'hui de développer ce genre d'approche. Et je suis vraiment très reconnaissant à l'AFSE pour avoir reconnu cette approche. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié, Annie, la façon dont tu as mis ce livre en perspective. Donc, je crois qu'on aura l'occasion dans la table ronde de reparler de la question des inégalités aujourd'hui, qui se pose différemment, évidemment, aux États-Unis avec l'explosion des 1%, et en Europe, où la question des inégalités, c'est d'abord le chômage des jeunes, notamment, qui atteint des niveaux insupportables en France, plus encore en Europe du Sud. Je voudrais dire très, très rapidement que les choix qui ont été faits en 2011, 2012, 2013... par d'ailleurs à la fois l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement en France et d'ailleurs aussi dans d'autres pays européens, de vouloir réduire les déficits trop vite, en l'occurrence en augmentant les impôts très lourdement en 2011, 2012, 2013. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un assez large consensus au-delà de la droite et de la gauche pour dire que tout ça a contribué à tuer la croissance, à faire monter le chômage, qui a énormément augmenté en zone euro alors qu'il se réduisait aux États-Unis. On avait le même taux de chômage il y a 5 ans. En zone euro aux États-Unis. Et aujourd'hui, le verdict des faits est absolument terrible pour la zone euro, puisque le chômage a baissé aux États-Unis, il a augmenté en zone euro. Donc on a transformé une crise qui, au départ, venait du secteur financier privé américain en une crise de la dette publique en Europe, alors qu'il n'y avait pas plus de dette publique en Europe au départ qu'aux États-Unis, au Japon. Donc il y a quand même un examen de conscience très lourd à faire sur la séquence qui s'est produite sur les 5 dernières années. Après, les réformes structurelles dont on parle aujourd'hui sont sans doute certaines intéressantes, mais en même temps, les problèmes étaient déjà là il y a 5 ans de la même façon, et le taux de chômage était le même aux États-Unis en zone euro. Donc en première approximation, si le chômage a explosé en zone euro, a chuté aux États-Unis sur les 5 dernières années, c'est quand même ailleurs que se trouvent les explications. Voilà, donc il y a le long terme dont je parle dans mon livre, l'évolution des inégalités en long terme, et puis il y a le court terme et le moyen terme qui, là, pèsent quand même assez lourdement sur la question des inégalités ici et maintenant en Europe et en France. Et bon, on aura l'occasion d'en reparler dans la table ronde, mais je voulais dire quelques mots dès maintenant. Mais bon, merci beaucoup à tous pour ce prix et qui me fait vraiment très plaisir. Et ce livre, oui, 40 écus, je vais vérifier combien ça faisait en 1768, mais de mémoire, c'était pas mal l'écu, hein, mais je vais vérifier tout ça. Merci beaucoup.
Bon, eh bien, je suis très heureux d'être numéro 2 derrière Thomas, n'est-ce pas? Si, par exemple, je faisais la moitié de ses ventes, je serais le plus heureux des hommes. Mais comme l'ont dit les orateurs précédents, mon livre est un peu universitaire au sens strict. Et par conséquent, il a une diffusion mondiale sensiblement plus étroite. Mais ce matin, je tiens à remercier vraiment très très sincèrement l'Association française de sciences économiques, notre association de tous les économistes, son président Alain Tranois et Annie Cotte, qui est président du jury. À remercier aussi Pascal Lemaire pour l'organisation de toutes ces initiatives dans le domaine économique qui sont si fécondes pour de très larges publics, on le voit encore ce matin. Je suis très très heureux de recevoir ce prix de cette association. Et je dois dire que la surprise qui m'a été faite avec ce que je considère comme un magnifique cadeau, vraiment, je ne peux pas rêver mieux que les œuvres de Turgot. Ça ajoute au sentiment d'émotion, disons, de recevoir cette distinction. Alors, à propos de Turgot, je suis obligé de dire deux mots quand même, surtout en présence du président de l'Assemblée nationale. Turgot, donc, est connu, comme vous l'avez dit, monsieur le président, pour être parmi ceux qui ont voulu réformer l'État, faire en sorte que l'économie marche mieux, soit plus fluide. Dans le vocabulaire de l'époque, donc, et dans les institutions de l'époque, c'était dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, vers 1775, de mémoire. Il a exercé pendant plus d'une décennie des responsabilités de l'administration de la province du Limousin, où il s'est distingué par la qualité de cette administration, par sa justice, par la façon dont il avait combiné les exigences de justice dans cette période un peu difficile de l'Ancien Régime et les exigences d'efficacité. Et c'est ce qui l'a conduit à être nommé par le roi en charge des finances à la fin des années 70, où pendant 2 ans, il a mené une action réformatrice extraordinaire visant précisément à, d'un côté, c'était vraiment les thèmes que vous développiez ce matin, d'un côté, à remettre de l'ordre dans les finances publiques, qui étaient en grand désarroi sous la fin de la royauté, et à rendre l'économie plus flexible, disons plus libérale. Ce qui incorpore cette nouvelle politique économique à l'époque, c'est ce que l'on appelle les édits de Turgot, que je me réjouis tant de voir écrits sous mes yeux dans un texte de l'époque. Les édits de Turgot qui ont, est-ce qu'on peut dire, ça c'était les lois Macron de l'époque. Mais enfin, disons que c'était des lois Macron
pas deux, pas trois, pas quatre, c'était des lois. Il y a combien de 6, 8. Voilà. Donc on attend Macron 8 pour pouvoir comparer la modernisation de la France avec celle qu'a impulsée Turgot. Il y a aussi des leçons pour les responsables politiques, puisque Turgot a duré 2 ans, et au bout de 2 ans, il a connu ce que l'on appelle la disgrâce de Turgot, à laquelle Edgar Faure a consacré un livre extrêmement intéressant et aussi amusant par le style d'Edgar Faure. Enfin bref, voilà ce que je peux dire abruptement de ce que me rappelle Turgot et les raisons pour lesquelles je suis si heureux de ce prix. Quant au livre, 2 mots, Annie en a dit juste... a donné quelques indications. Donc, c'est un livre qui s'inscrit dans la suite de ceux traitant de la crise financière. Il y a eu une crise de la finance privée aux États-Unis, une crise des finances publiques en Europe. On est sorti de ces crises par des moyens non soutenables, très artificiels, avec le gonflement énorme des dettes publiques et le gonflement gigantesque des bilans de banques centrales. Tout ça n'est pas soutenable, ça ne va pas durer éternellement. Donc il faut s'attendre à de nouveaux rebondissements. Et il y a, parmi ces rebondissements possibles, que je n'annonce pas, mais qui sont dans l'air du temps, il y a des rebondissements monétaires. Parce que jusqu'à présent, pour des raisons politiques assez complexes, la sphère monétaire internationale est restée à l'extérieur, disons, au drame de la finance privée et publique. Mais ce que je redoute, c'est que se mettent en place des mécanismes que l'on appelle trop tôt pour le moment des mécanismes de guerre monétaire, c'est-à-dire des mécanismes dans lesquels chaque nation cherche à résoudre ses propres difficultés, soit par des dévaluations compétitives, soit par des annulations de dettes. Donc voilà un petit peu ce risque que je cherche à documenter. Et le livre est composé d'une analyse historique pour montrer comment on peut organiser la paix monétaire dans le temps, au XIXe siècle, au XXe siècle, comment aujourd'hui se pose la question pour les principaux acteurs, les États-Unis et le dollar, la Chine et le yuan et l'Europe et l'euro, et puis à faire des propositions. Pascal Lemerer parlait tout à l'heure de l'importance des institutions. Eh bien, à la fin, il y a des propositions de nature institutionnelle et politique pour tâcher de faire mieux fonctionner le système monétaire international au XXIe siècle. Voilà. Merci encore aux organisateurs de ce prix, et merci pour ce prix magnifique.